On va ce matin partager un sujet. Vous savez que je vous ai dit que j'aborderai à la rentrée un sujet qui pour moi est vital. Comment entrer dans le repos? Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la victoire parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans le repos. J'ai fait une ou deux prédications là-dessus. Mais voyez, dimanche dernier, j'avais à cœur de partager sur l'humilité de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai à cœur de partager un autre sujet. Je viendrai sur ces sujets qui me tiennent à cœur, mais quand même, c'est pas à moi de décider quels sont les sujets que je dois apporter à l'Église. Je pense que c'est au Saint-Esprit à me diriger dans les sujets appropriés. On va, ce matin, on pourrait résumer la prédication en trois mots. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. C'est un sujet que j'ai régulièrement abordé, mais je voudrais le présenter ce matin peut-être d'une façon différente. Nous allons faire une lecture dans l'Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 7. Si vous arrivez que vous avez des enfants, n'oubliez pas d'aller voir à la fin du culte mon épouse pour les inscrire afin que nous sachions combien d'enfants il y aura dans les classes. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Retenez bien les mots qui suivent. Son épouse s'est préparée. Je le relis. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables parole de Dieu. Amen. Vous pouvez garder la page et nous allons aller dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 22. Et vous allez voir combien ce qu'on va lire est extrêmement lié à la lecture précédente. Éphésiens, chapitre 5, c'est un sujet délicat. Chaque fois qu'on aborde la lecture de ces versets, c'est pas toujours bien interprété. Et je voudrais que vous soyez très sérieux avec ce que nous allons partager ce matin. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Regardez bien pourquoi toutes ces choses. Pourquoi les hommes doivent agir d'une façon et les femmes d'une autre, pour, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Quand vous lisez l'Évangile, quand vous lisez les Épîtres, quand vous lisez l'Apocalypse, vous savez vraiment ce qui va arriver. Beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients, mais vous le savez. Vous discernez que les choses se mettent en place et vous voyez également que Dieu est très précis, très profond par rapport à l'importance d'être prêt pour l'enlèvement. Parce que s'il y en a un qui sait ce qui va arriver aux croyants qui ne sont pas prêts, c'est bien le Seigneur Jésus. Vous le comprenez bien. Dieu sait vraiment ce qui va arriver pour tous les chrétiens qui ne sont pas prêts. C'est une affaire archi sérieuse. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts.
Vendredi après-midi, je rentrais d'une visite et je poursuivais dans mon cœur, dans ma tête, ce sujet sur le repos, parce que je vous assure que ça me préoccupe. Parce que je sais que ça amènera des gens dans une vraie victoire. Mais j'ai eu un fardeau et je sentais que le Saint-Esprit ne voulait pas que je prêche sur le repos, mais que je prêche sur ce sujet. Tenez-vous prêts. Et comme nous venons de le lire, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, nous en déduisons que les chrétiens qui ne veulent pas se purifier, qui ne veulent pas se sanctifier, qui ne veulent pas se revêtir de la robe que Dieu leur donne, puisqu'il est dit, il lui a été donné de se revêtir, donc c'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes, ces chrétiens-là ne seront pas enlevés. Ils ne participeront pas aux noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous réalisez que peut-être très prochainement, nous allons nous retrouver dans la présence glorieuse de Dieu pour participer aux noces de l'agneau. Vous y pensez de temps en temps? Moi, je pense que je trouve que ça va s'approcher. Et que bientôt, on va se retrouver vraiment au bon endroit. Pour ceux qui sont prêts. Et vous savez très bien que ceux qui ne sont pas prêts, bien sûr, ne participeront pas aux noces de l'agneau et n'auront pas d'autre choix que de traverser la grande tribulation. Et quand vous lisez quand même ce qui est lié à la grande tribulation, ça fait quand même réfléchir. Oui ou non? Quand même. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas inventé par des évêques ou des pasteurs que ça arrangerait. Et vous le savez qu'ils n'auront pas d'autre choix, ces chrétiens qui ne sont pas prêts, que la perdition éternelle ou le martyre. Vous le savez. On va le lire, c'est ce quand même qu'affirme l'Apocalypse. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il faut se purifier et se sanctifier pour être prêts. Dans l'Apocalypse au chapitre 13, c'est quand même des choses, n'oubliez pas, c'est Jésus qui est en train de les dicter à Jean pour que ces choses nous soient dévoilées, révélées. Dieu voulait que nous les sachions. Vous savez, il pourrait ne pas y avoir le livre de l'Apocalypse. Il pourrait ne pas y avoir Matthieu 24, Luc 21, ces chapitres qui prophétisent ce qui va arriver. Mais regardez, on ne va pas tout lire, Apocalypse 13, regardez verset 15. Ça bien sûr c'est après l'enlèvement de l'Église. Apocalypse 13, 15. « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Regardez chapitre 14, verset 9. Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront de repos ni jour ni nuit. » Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. N'oublions pas que quand ces choses arriveront, il n'y aura plus la grâce de Dieu sur la terre. L'Église aura été enlevée, le Saint-Esprit aura été retiré, il y aura bien les 144 000 juifs qui parcourront encore la terre pour évangéliser. Et c'est vrai que pendant la grande tribulation, une très grande foule se convertira, mais ça sera au détriment de leur vie. Il n'y a pas la grâce, il n'y a plus la grâce. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, et que personne ne se met à tête que parce que Dieu est amour, il va passer l'éponge sur le manque de sanctification ou de purification. Si Jésus me met à cœur de prêcher sur la sanctification, c'est qu'il sait, c'est évident, que beaucoup ne sont pas prêts. C'est vrai que des centaines et des milliers écoutent ces enregistrements, mais il se pourrait quand même que dans l'Assemblée, beaucoup ne soient pas prêts. On l'a lu dans l'Apocalypse 19, 7, son église, son épouse s'est préparée. Est-ce que vous êtes prêts? Ou est-ce que vous ressemblez à ces vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe? Elles n'étaient pas prête. C'est de la négligence. Hier soir, j'ai entendu quelques jeunes prier, demander pardon pour leur négligence. La négligence, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas tolérer, parce que Jésus appelle la négligence de la folie. Il n'a pas dit que c'était des vierges négligentes, il a dit que c'était des vierges folles. Et un chrétien, il est complètement fou lorsqu'il ne s'applique pas à faire en sorte que son esprit soit rempli de l'huile. C'est pas moi qui le dis, j'aurais pas osé dire quelque chose quand même d'aussi dur. C'est la vérité. Quelqu'un qui ne s'applique pas à acheter de l'huile, c'est-à-dire à faire des efforts pour faire ce que Dieu demande, eh bien il est fou. Il est fou. C'est de la folie, parce que ne pas être prêt à rencontrer le Seigneur et être dans une église, c'est complètement fou. J'espère que vous êtes d'accord. Alors elle est où l'église du Seigneur aujourd'hui? C'est quoi l'église du Seigneur? C'est l'église de Pentecôte? C'est les assemblées de Dieu de France, l'église du Seigneur? Non, l'église du Seigneur, elle est partout sur la terre. Partout, bien sûr, dans les dénominations, dans des milliers et des milliers et des milliers d'églises, mais aussi je sais qu'il y a des églises de maison, il y a des gens qui ne fréquentent peut-être pas des églises parce qu'ils n'ont pas d'église, mais ils font partie de l'église du Seigneur parce que malgré leur isolement, ils continuent à se tenir devant Dieu. L'église du Seigneur, ce sont tous ceux qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont passés par la nouvelle naissance et qui continuent à se laisser transformer par la parole. Vous entendez? Ils ont fait une expérience profonde. Cette expérience les a amenés à la repentance. Cette expérience les a amenés plus loin, bien sûr, à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance leur a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance de continuer à se laisser travailler par la parole de Dieu. Beaucoup se sont fait baptiser et n'ont fait qu'une expérience avec Dieu. Et moi, ça me brise le cœur. Je sais que ça va se reproduire 7 ou 8 fois à la rentrée des chrétiens qui vont arriver d'une autre église à qui je devrais dire, écoutez mademoiselle, écoutez jeune homme, vous êtes baptisé, mais c'est mon devoir de vous le dire, vous n'êtes pas converti. On le voit vite, croyez-moi, on le fait vite quand quelqu'un n'est pas converti. C'est sérieux, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas se contenter de dire je suis chrétien, je suis sauvé parce que j'ai pris le baptême, donc je suis prêt, je peux vivre ma petite vie tranquille, là avec mes compromis, le Seigneur n'a pas l'air trop contre, je vois bien qu'il n'arrive rien, je fais mes petites magouilles, je viens à l'église, en même temps je regarde mes cochonneries sur internet, ça n'a pas l'air de contrarier le Seigneur. Bien sûr, si l'Esprit de Dieu s'est retiré, vous aurez du mal à sentir la conviction de péché. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, ils ont tellement attristé le Saint-Esprit que quand ils commettent quelque chose qui ne va pas, ils ne s'en rendent même pas compte. Bien, peut-être que Dieu n'est pas si dur que le pasteur. Je vous ai dit que lorsque quelqu'un vit dans le péché, le jugement sera reporté. Je ne vais pas revenir dessus, ça serait trop long de nouveau à expliquer. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. C'est clair. Et vous avez remarqué, et c'est ce que j'ai vraiment compris, c'était hier, que ça commence dans le couple. Vous l'avez vu avec moi? Je pense que vous avez compris comme moi, que ça commence dans la famille, dans le couple. Parce que l'église, c'est bien, de 9h30 à 11h30, d'accord, l'église se réunit. Mais l'église, c'est quoi? Ce sont les chrétiens qui, toute la semaine, sont chez eux, dans leur maison. Oui ou non? Et ce que nous vivons à l'église devrait être, en fin de compte, le résultat de tout ce que nous vivons dans la semaine. Si je suis en colère toute la semaine, à moins que je sois un fameux comédien, mais je veux dire, ça va ressortir. Si je suis en paix toute la semaine, ça, c'est fort probable que je procure la paix à mes frères et sœurs. Ça tient debout ce que je vous dis? Bon. Mais 2 heures dans une semaine, c'est une chose assez facile à vivre puisqu'on est dans des conditions favorables. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour faire paraître, on l'a lu, cette église glorieuse devant lui sans tâche, nous l'avons lu si on le met à l'envers. Le mari doit aimer sa femme. Je me souviens de la première prédication que j'ai entendue sur ce sujet. Ça me revient, vous voyez, parce que ça m'a blessé. J'étais un jeune chrétien. Tout le monde riait dans la salle. Le pasteur faisait de l'humour avec ce sujet. Ça m'avait contrarié. Vous savez, on peut faire rire, mais c'est pas du tout comique, cette affaire. Il y a des sujets dans lesquels on peut introduire un peu d'humour. C'est pas du tout malséan. Mais il y a des sujets, s'ils doivent faire concourir à ce que l'Église soit prête, on n'a pas intérêt à rigoler avec ça. Et c'est un sujet on ne peut pas s'autoriser à faire des blagues avec ces versets bibliques. C'est quand même inspiré par le Saint-Esprit, c'est pour que l'Église soit glorieuse, sans rides, sans tâche. Comment un homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme? Comment une femme doit se soumettre à son mari, comme Dieu le lui demande? Parce que la véritable Église, on l'a lu, elle est soumise au Seigneur. Une Église où les croyants ne sont pas soumis au Seigneur n'est qu'une Église fantôme. Fantoche, ça ne sert à rien. Dieu ne peut rien y faire dans cette Église-là. La véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les pentecôtistes ou notre dénomination, ce sont tous ceux qui sont véritablement soumis au Seigneur. Et la soumission, ce n'est pas l'obéissance à Dieu ou à son mari. Ce n'est pas l'obéissance au doigt et à l'œil. Tiens, tout ce que mon mari demande de faire, eh bien, je vais le faire. C'est pas ça la soumission. Bête et idiote. C'est pas ça. C'est surtout si c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que faites attention, mes frères, que vous ne demandiez pas à vos épouses, au nom de ce verset, de leur demander de faire des choses que Dieu condamne. Jésus n'a pas dit, femmes, soyez esclaves de vos maris. Et moi, je plains les maris qui ont utilisé ce verset pour imposer leur dictature dans le cadre de leur foyer. Il faut faire très attention. Je vous dis, c'est un sujet, on ne peut pas s'autoriser la moindre blague. Ce n'est pas possible si on veut que l'Église soit prête quand Jésus reviendra. C'est un sujet délicat, j'en conviens, quand je me préparais hier, je me dis, mais est-ce que tu vas dire tout ce que tu as à cœur? Est-ce que tu dois le dire? Est-ce que c'est toi qui le penses, etc. Pour moi, ça me préoccupe. La soumission, c'est quelque chose de sérieux. La soumission, c'est d'abord une attitude de cœur. C'est une attitude d'amour. Quand on se soumet, on ne se soumet pas parce qu'il faut, eh bien, il faut se soumettre. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, je le fais. Voilà. Je le fais. Je vais essayer de le faire de bon cœur. Enfin, je le fais. Voilà. Moi, je suis soumis. Je pense que, bon, c'est déjà peut-être des efforts. Mais je ne pense pas que c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. La soumission, c'est une attitude de cœur. J'ai compris. J'ai compris. Que tout ce que Dieu me demande de faire est bon. Vous le croyez, ça? Est-ce que vous êtes sûr que tous les commandements de Dieu sont intelligents? Est-ce que vous êtes sûr que quand Dieu demande à une jeune fille de ne pas se marier avec un inconverti, est-ce que vous êtes sûr que c'est quelque chose d'intelligent? Eh bien, mes sœurs, si cette semaine, j'ai vu une jeune fille cette semaine. Ça m'a brisé le cœur. J'en vois tous les 3-4 mois. J'ai vu deux situations cette semaine, ça m'a brisé le cœur. Une jeune fille à qui j'avais averti, j'ai dit, mais mademoiselle, ne vous mettez pas avec ce gars, vous voyez bien, c'est un inconverti, il va vous rendre malheureuse. Il l'a tapé, il l'a battu, il l'a trompé, elle a eu un gosse dans des conditions, mais folle. Et aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire, le désespoir, elle a gâché les 10 meilleures années de sa vie. Alors bien sûr que Dieu va l'aider, est-ce que Dieu peut l'aider? Bien sûr, et surtout que nous ne condamnons surtout pas. Et ne jugeons surtout pas. Ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas à dire. Cela ne nous autorise pas parce que quelqu'un a péché à le juger, à le condamner. Il faut continuer à l'aider. Ça, c'est une chose indéniable. Dieu n'a rien à faire dans une église où l'esprit de jugement rentre. Après, on peut juger le péché d'un chrétien qui aurait une responsabilité. Ça, c'est autre chose. Mais la soumission, c'est une attitude de cœur. Je le comprends. Dieu nous demande de nous soumettre les uns aux autres. C'est intelligent. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès qu'on commence à se rebeller contre l'autorité de Dieu, ça va pas. Dès qu'on commence à dire, oui, Dieu a dit ça, d'accord, mais ça, il y a 2000 ans que c'est écrit, vous pouvez comprendre que déjà vous avez affaire à un petit rebelle. Quand quelqu'un commence à dire, oui, mais ça a été écrit il y a 2000 ans, est-ce que ça correspond toujours? Écoutez-moi, ce qui a été écrit, ça ne bougera pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà. Si vous voulez un livre clair, c'est bien la parole de Dieu. Et chercher à savoir si on obéit. Mais c'est vraiment très important. Dans quel état d'esprit sommes-nous ce matin? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Et dans quel état d'esprit je suis? Ce sont des choses très, très sérieuses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais moi, ça me fait frémir. Le sacrifice qu'il doit y avoir dans ma vie pour mon épouse. Les frères, ça vous fait réfléchir ou non? Est-ce que vous pensez que l'on peut faire des progrès dans ce domaine? Les frères, regardez-moi. Est-ce qu'on peut faire des progrès? Mes frères, soyons devant Dieu. On est devant Dieu, là. Je ne sais pas comment vous interprétez. C'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Et ça, il faut qu'on y travaille. Et même celui qui aime le plus sa femme au milieu de nous, il doit être même interpellé par ce verset et dire, mais comment je l'aime, ma femme? C'est sûr que ça nécessite d'une véritable communion, une véritable communication. Je ne veux pas prendre des exemples, ça allongerait trop. Mais c'est quelque chose d'important. Comment je dois aimer mon épouse? Quand Dieu dit aux épouses, femmes, soyez soumises à vos maris, mes frères, mes sœurs, c'est vachement sérieux. Et vous entendez. Écoutez, mes sœurs. C'est vrai qu'en tant qu'homme, je me sentirais plus à l'aise de m'adresser au mari et de nous exhorter les uns les autres, vraiment, à ce qu'on fasse des efforts formidables pour aimer nos épouses. Mais quand même, mes sœurs, je me dois d'être le plus impartial possible. Et je vous le dis, mes sœurs, il vous faut vous apprendre à vous soumettre à votre mari. Lorsque Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Il connaît le cœur des femmes, c'est Dieu qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé l'homme, il sait le problème majeur des hommes, il sait le problème majeur des femmes, il sait que le problème majeur de la femme, c'est la rébellion. Les sœurs, je vous apprends quelque chose? Que le problème des maris, c'est le manque d'amour. C'est pour ça que Jésus demande aux femmes de se soumettre, parce que c'est leur point difficile, et que le point difficile des hommes, c'est d'apporter vraiment de l'affection à leurs épouses. Et il faut que tous on l'accepte, peut-être plus ou moins pour certains. Des femmes sont peut-être plus ou moins rebelles que d'autres, des maris sont beaucoup plus durs que d'autres, c'est certain, on n'est pas tous au même niveau. Mais une chose est certaine, Dieu sait ce qu'il avait à dire aux hommes, Dieu sait ce qu'il a à dire aux maris, et aux futurs maris, et aux futures femmes. Parce que quand je vois le grabuge dans les églises, dans les couples qui se marient, mais il faut voir, ils n'ont pas abordé ces choses. Et l'égoïsme est en train de détruire, et ça rentre même dans les églises. Et moi je suis brisé quand je vois tant de couples se déchirer. Vous le comprenez? Ça fait rire personne, croyez-moi. Il sait que le problème de la femme, c'est la rébellion. Et il sait que le problème de l'homme, c'est le manque d'amour. Et si nous sommes vrais, parce que j'espère qu'on l'est, on est là devant Dieu, sous le regard de Dieu, on a écouté des témoignages, des encouragements, des remerciements, on a pris la Sainte Seine, on a chanté, on a vécu un moment dans la louange et l'adoration, et il fallait la voir. Mais il y a un moment donné aussi où Dieu nous dit, voilà, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Il pourrait nous dire, on va le voir à la fin, ce que j'ai contre toi. Dieu pourrait dire à plusieurs maris, mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre vous, c'est que vraiment vous ne vous appliquez pas à aimer vos femmes. Et il pourrait dire à certaines femmes, mais quand même, ce que j'ai contre vous, c'est que vraiment vous faites n'importe quoi avec vos maris, au nom de la liberté. Et ça, c'est rentré dans le monde, vous avez vu, ne permettez-moi cette image, vous avez vu combien le gouvernement s'est affairé, il fallait à tout prix, pour contenter tout le monde, mettre la parité dans le gouvernement. Je peux vous dire que dans quelques mois, il va regretter d'avoir mis certaines femmes au gouvernement. Et le problème n'est pas dans le nombre de femmes ou d'hommes, il pourrait y avoir plus de femmes, si elles sont plus compétentes que les hommes. Mais vous le verrez. Vous voyez, pour faire plaisir. Bon, c'est le monde. Mais dans l'Église, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour obéir à Dieu. Et c'est ça qui procure un véritable plaisir. Et si nous sommes vrais, si nous sommes sérieux, si nous sommes soucieux d'être prêts pour le retour du Seigneur, nous allons faire en sorte que l'Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, sans compromis, et nous ferons ce que Dieu lui demande. Vous l'avez vu? Vous avez vu? On y revient, s'il vous plaît? C'est quand même écrit. Éphésiens 22, 26, donc, femmes, soumettez-vous, mari, aimez vos femmes. Verset 27, c'est une conjonction, vous le savez, ça relie à ce qui a été dit. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Je suis persuadé qu'un des piliers de l'église, c'est la maison de prière. Il faut que l'église prie. Il faut, je utilise cet impératif, parce que Jésus a dit qu'il faut prier. Il y a des impératifs, ça aussi. Si vous ne les acceptez pas, vous avez un petit peu de rébellion dans le cœur. Vous croyez qu'ils sont justifiés, les « il faut » de Dieu? Ils sont justifiés ou non? Répondez-moi. Est-ce que les « il faut » de Jésus-Christ sont justifiés? Bien sûr, je le répète, c'est plein de sagesse. Quand quelqu'un dit « oui, il a dit il faut, mais moi, il faut, je ne prie pas sur commande. » Mais on ne vous demande pas de prier sur commande, on vous demande de faire avec joie ce que Dieu vous demande. Ça, c'est un signe de rébellion. Alors vous allez me dire « non, monsieur Gaud, c'est ma façon de parler. » Moi, je vous dis que quand on commence à justifier la désobéissance d'un commandement qui nous paraît excessif, eh bien, c'est déjà de la rébellion dans le cœur de ses enfants. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ceux qui veulent voir la bénédiction de Dieu, écoutent. Ceux qui veulent être prêts au retour du Seigneur, écoutent. Mes frères et sœurs, c'est trop sérieux. Vous avez vu, verset 27, « pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Oui à l'église. Et nous devons nous appliquer à avoir des réunions sérieuses, que les meneurs de chant soient des gens sérieux, qui présentent les chants correctement, que ceux qui présentent la scène, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les réunions de l'église doivent être vécues dans l'ordre et la bienséance. On s'y applique. Mais l'église, c'est d'abord tous les chrétiens qui toute la semaine sont chez eux et qui vivent ou qui ne vivent pas ce que Dieu voudrait qu'ils vivent. Lorsqu'une femme se soumet à son mari, comme Dieu le lui demande, comme un mari aime de plus en plus sa femme, je dis de plus en plus parce que aimer comme Jésus aimait l'église, ça, il y a du boulot mes frères. Je ne sais pas si vous avez l'esprit de sacrifice que Dieu nous demande. Les frères, ça ne vous fait pas rire, hein? Non? Alors les frères, et ceux qui veulent se marier, ça ne va pas vous dissuader Timothée? Non? Gilles est marié. Le jeune homme devant, là, Lucas. L'Église paraîtra glorieuse lorsque dans les familles, les maris feront ces choses. Écoutez, moi, j'ai lu ce soir, je les ai lus 100 fois, 500 fois. Mais quand je me suis préparé, je sais bien que Dieu peut m'appuyer un verset pour que je l'apporte à l'Église. Mais laissez-moi vous dire que hier, j'ai compris l'importance que dans nos maisons, dans nos familles, c'est là que l'évangile se vit. J'y reviens, c'est pas les 2 heures à l'église qui vont déterminer toute la bénédiction de Dieu. Vous le comprenez bien. N'importe quel enfant comprendrait cela. C'est comme un footballeur qui s'appliquerait à faire du bon foot que le jour du match. Je pense que s'il n'y a pas derrière des centaines d'heures et de muscu et de tout ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. L'Église, elle est ce que nous sommes tout le long de la semaine, jour et nuit, partout où Dieu nous a placés. Mes sœurs, qui êtes mariées, et vous, mesdemoiselles, qui allez bientôt vous marier, n'est-ce pas? Est-ce que vous cherchez vraiment, écoutez-moi bien mes sœurs, est-ce que vous cherchez vraiment à savoir comment vous devez vous comporter par rapport à votre mari? Je m'adresse aux sœurs, c'est vital ce que je vous dis. Je crois même que le réveil d'une église peut être lié à cette affaire. Mes sœurs, vous avez entendu ma question? Est-ce que vous cherchez vraiment à savoir comment vous devez vous comporter par rapport à votre mari? Peut-être que vous avez besoin d'aide. Parlez-en à des sœurs. Parlez-en peut-être à des frères qui peuvent vous aider. Comment eux ont vécu dans leur couple, dans l'église, des couples anciens qui ont réussi. On a des couples qui sont mariés depuis 50 ans qui tiennent debout. Et vous pouvez aller les voir, ils vont vous donner des conseils. Est-ce que des frères anciens et des sœurs anciennes peuvent nous aider? Eh bien sûr, surtout s'ils ont réussi, mes frères et sœurs, dans ce domaine. Et c'est pareil pour les hommes, bien entendu. Est-ce que nous, les maris, nous sommes prêts à chercher, à savoir ce qu'il faut absolument faire aujourd'hui pour aimer l'épouse? Et non pas la lui, mais tu es la femme, hein, de mon temps c'était comme ça, les femmes, et voilà, tu te soumets, excusez-moi l'expression, tu la fermes, c'est comme ça que ça se passe. Mais attendez-vous à ce qu'on voit le réveil dans l'église. Vous croyez qu'on va voir le réveil? Quand un homme va dire, j'emploie une expression familière parce que tout le monde la comprend bien, quand on entend des hommes qui disent ma femme, elle la boucle. Je fais ce que je veux, t'as rien à dire. Si le Seigneur Jésus nous avait parlé comme ça, il s'est sacrifié pour l'église. Il s'est sacrifié. Eh bien, mes frères, ceux qui sont mariés et ceux qui veulent vous marier, je vous le dis, si nous voulons voir une église prête, sans rides, sans taches, glorieuse, belle, prête, il faut, mes frères, que vous qui voulez vous marier, vous disiez, je sais, et puis Dieu vous bénira. Est-ce que Dieu va bénir un mari qui va se sacrifier pour sa femme? Est-ce que Dieu va le bénir? Est-ce que Dieu va bénir une épouse qui, d'une manière consciencieuse, intelligente, pas bête et disciplinée, mais consciente, va dire, je vais quand même chercher à savoir comment je dois faire pour mon mari. Et peut-être ça nécessite vraiment une discussion à cœur ouvert et dire à sa femme, mais qu'est-ce que c'est que tu attends de moi? Il faut en parler. Moi, je le vois dans mon bureau. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Ah, ben, ma femme n'en parle plus. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ma femme? Il y a plus, c'est le silence. Chacun sa vie dans la baraque. Moi, dans le monde, je comprends dans le monde qu'on soit là. Mais dans l'église, moi, ma femme, je ne sais pas ce qu'elle pense. Je ne sais rien. Je ne veux pas savoir. Et vous savez que je n'exagère pas. Quand on en arrive là, je pense que ça nécessite une profonde repentance. Je pense que Marie doit chercher à savoir ce que pense sa femme. Pourquoi tu es triste en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ai blessé? On ne peut pas commencer avec des choses toutes simples? Quand même.
Si nous acceptons la volonté de Dieu, si nous acceptons de plier avec beaucoup de sérénité à ce que l'on partage, moi je crois que dans l'Église, il se passera des choses formidables. Je vous exhorte à venir à la réunion de prière. Mais si nous avons des réunions de prière sans tenir compte de ce que je suis en train de vous dire, ça ne servira pas à grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'appelle l'hypocrisie. Et ça, s'il y a bien une chose que Dieu a dénoncée pendant l'exercice de son ministère, c'est bien l'hypocrisie. Quand je vois comment il a parlé aux débauchés, aux prostituées, avec tendresse et délicatesse pour les sortir du péché, quand je vois comment il a parlé aux pasteurs, aux prêtres, avec une dureté, pourquoi? Mais parce que l'hypocrisie, c'est une arme du diable. Et ça ne lui plaît pas. Mais voyez, moi je vous le dis, je me mets avec vous comprenez bien que je ne suis pas en train de faire la morale. Je me dis, mais comment je peux mieux mon épouse? C'est une affaire sérieuse. Mes sœurs, est-ce que vous vous dites, voilà, il faut que j'apprenne à discuter davantage avec mon mari, il y a des trucs où on n'est pas d'accord. Eh bien, on va le régler. Mais on va prier ensemble, peut-être. Je vais prier pour elle, je vais prier pour lui. Et il va se passer des choses formidables. Est-ce que vous croyez qu'une femme peut prier pour son mari? Une femme me disait dernièrement qu'elle a prié parce que son mari était découragé, il n'avait pas de boulot, il était découragé, il en arrivait à ne plus aller à l'église. Cette femme, elle s'est mise à jeûner, elle s'est mise à prier, elle a fait une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Elle n'a pas dit à son mari, mais écoute, t'es qu'un feignant, tu fous rien à la maison, et l'argent, quand est-ce qu'il va rentrer? Je comprends qu'une femme puisse souffrir, il y a tellement de souffrances. Et c'est pour ça qu'on n'a pas jugé même ce genre de propos. Si vous entendez un jour quelqu'un parler comme ça, ne l'accablez pas, ne le jugez pas. Mais c'est pas comme ça que ça va avancer. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'aime. Il faut vraiment qu'on s'aime dans l'église. Même si des fois on a des choses à se dire, c'est pas grave. Il faut que nous continuions à nous aimer. Vous entendez mes frères et sœurs? Christ a purifié l'église par l'eau de la parole. C'est écrit? On vient de le lire. Et moi, je vais vous dire que si nous nous mettons à obéir avec joie, si nous faisions des fittings à la rentrée, eh bien, on va s'attaquer avec ça, avec mon épouse. On va commencer à mettre ces choses en place. On va chercher sa place dans l'église en même temps. Je peux vous dire qu'on va voir des belles choses dans l'église. Vous le croyez qu'on verrait des belles choses dans l'église? Sérieusement. Et tous les jeunes qui veulent se marier, vous croyez que vous ne verriez pas la bénédiction de Dieu et l'approbation de Dieu si vous partez dans cet état d'esprit? Voilà l'épouse que j'aimerais avoir, voilà le mari que je veux être. Moi, je me souviens de ce gars qui parlait à sa fiancée, il disait, mais tu sais, ma mère, elle est complètement débile, ma mère, elle est folle. Et à part, je lui dis, vous voyez, il vous parlera comme ça quand vous serez marié. Elle me dit, c'est pas possible. Un homme qui respecte pas sa mère, il respectera pas sa femme. Point barre. C'est pas, j'ai pas inventé ça, c'est comme ça. Quand on ne respecte pas sa mère, on ne respecte pas sa femme. Et mesdemoiselles, si vous fréquentez un gars qui est de manque de respect envers l'église, ne le fréquentez pas, fuyez-le. Parce qu'il vous traitera de la même manière. Et combien? Ah, monsieur Gossi, j'avais su, je vous aurais écouté. Bon, après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Les rebelles, ils ont cette qualité, ils interprètent la parole de Dieu en leur faveur. Toujours pour justifier leur désobéissance. C'est comme ça. Et le Seigneur, lui, quand il a des gens obéissants, ces gens-là, ils sont tout le temps dans ce souci de bien faire. Si la prédication vous interpelle, Marie, si la prédication vous interpelle, femme, eh bien c'est bon signe. Si vous êtes en train de cogiter, de dire, bon, je continue, mais en même temps, je sais très bien qu'il y a des choses qu'il va falloir travailler, c'est bien. Le Seigneur veut que nous acceptions ce travail de purification par l'eau de la parole. Ce travail se fera par la parole de Dieu. Bien sûr, quelqu'un va me dire, mais monsieur Gros, on est purifié par le sang de Jésus. Oui qu'on est purifié, mais ce travail de purification se continue par l'eau de la parole. Écoutez, on vient de le dire. Il y a un travail continu de purification qui se fait par la parole tous les jours de notre vie, comme on est en train de le vivre en ce moment. Le but final, c'est celui-ci. De faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Irréprochable, c'est pas parfait dans le sens de infaillible. Irréprochable, à qui on... Vous avez peut-être des employés, ils sont irréprochables. Quand il faut une erreur, ils la réparent. C'est ça être irréprochable. Je commets une erreur, j'ai fait une erreur, dans l'église, dans ma maison, avec des amis, au boulot, n'importe où, j'ai commis une erreur, eh bien je la répare. C'est ça être irréprochable. Car des erreurs, nous en ferons. Alors quelle sorte de chrétien sommes-nous? On peut terminer le culte en se posant cette question. Mais qu'est-ce que je suis comme chrétien?
Est-ce que je suis un chrétien plein de compromis avec les choses du monde? Combien de jeunes sont embarqués dans un tas de choses mondaines? Moi, je vous le dis, jeunes, si le monde a pris le dessus, vous êtes perdus. Vous entendez? Parce que celui qui sera un ami du monde sera un ennemi de Dieu. Faites-vous partie de ces chrétiens soucieux d'écouter la voix de Dieu, comme on l'a chanté, « Oh, si je me tais !» Et de dire, voilà, de supplier Dieu, « Seigneur, moi je veux être utile. C'est un souci. Je veux me purifier. Je veux me sanctifier. » Est-ce que vous faites partie de cette catégorie-là ou de ceux qui avaient réussi à conjuguer le monde et la vie avec Dieu? Voilà un super compromis qui vous plaît, comme du temps des juges, comme du temps des rois. Ils aimaient Dieu et ils aimaient les Baals et les Astartés. Vous l'avez lu ça, certainement, plusieurs fois. C'est quoi notre prière? Ce matin, on a loué, on a prié avant le culte, mais c'est quoi notre prière? C'est « Seigneur, bénis-moi, ou que ta volonté soit faite. Je veux être prêt pour ton retour. Je veux que tu enlèves de ma vie ce qui t'empêche de me bénir. » Vous croyez pas que le Seigneur peut nous montrer les obstacles? Ce qui empêche que ta volonté soit faite dans ma vie, ce qui peut-être freine l'Église, parce que peut-être plusieurs sont dans le péché, et ça freine l'Église. Faut pas rêver, c'est pas, j'invente rien. Est-ce que le péché dans l'Église peut freiner l'action du Saint-Esprit? Et comment? Alors est-ce que mon iniquité, mon péché, eh bien oui, parce que je peux vous dire que le diable, lui, il est satisfait quand des chrétiens aveugles continuent à fréquenter l'Église tout en étant dans le péché. Alors moi, je peux vous dire que ça lui plaît. Et on devrait avoir cette honnêteté pour ne pas empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, de se tenir à genoux, dire « Seigneur, mais montre-moi, éclaire-moi. Est-ce que des âmes ne sont pas sauvées à cause de mon mauvais témoignage ?» Parce que vous le savez ça aussi. Que des âmes peuvent être scandalisées à cause d'un mauvais témoignage. Seigneur, enlève de moi la crainte que j'ai. La crainte, Marie me disait, j'ose pas prier avec ma femme. Mais je dis, comment ça? Vous osez pas prier avec votre femme? Vous couchez avec votre femme? Et vous osez pas prier avec elle? Et non, j'ose pas. Je dis, mais je crois que, est-ce que Dieu peut nous donner des victoires? Mes frères et sœurs, quand même. Seigneur, envahis mon cœur de ta pensée. Regardez avec moi un dernier verset. Je vais dépasser de quelques minutes, mais n'en tenez pas compte. Dans l'Apocalypse 19, au verset 5, ce matin, hier soir, je lisais ce verset. Et regardez ce verset, comme il indique bien la louange qui plaît à Dieu. Vous savez, des fois on n'y fait pas attention, mais quand dans le cadre d'une étude comme ça, de suite on enclenche bien. Apocalypse 19, 5, « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez. » Petits et grands, vous qui le craignez, voilà, ceux qui craignent Dieu, ceux qui le respectent, ce sont ceux qui veulent lui obéir. Le rebelle, il peut louer Dieu tant qu'il veut, ça, je comprends, je ne sais pas trop ce que Dieu en pense, mais ça ne sert à rien de toute façon, ça ne sert à rien. Celui qui écoute la loi, pour ne pas l'écouter, sa prière même est une abomination. La louange que Dieu aime, la louange que Dieu attend, la prière que Dieu aime, c'est celle qui est faite par un cœur qui craint Dieu. Dieu a dit ça, c'est sérieux. Seigneur, ce matin, tu m'interpelles. Je suis un mauvais mari. Quand je vois comment je néglige ma femme, oh Seigneur, pardon. À la sortie, dans la rue, je vais la prendre par la main et je vais lui demander pardon. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. C'est pas dire je suis d'accord, encore une fois, ce qu'il a dit, c'était biblique, ça tient debout. Non, non, non. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est que le résultat soit immédiat. Que de suite, je me comporte comme Dieu veut que je me comporte avec mon conjoint. Le Seigneur n'a rien à faire avec la louange des rebelles. On peut prier des heures, ça sert strictement à rien. Une femme, écoutez bien, une femme, une épouse, qui n'est pas soumise à son mari, elle est rebelle. Un mari qui n'aime pas sa femme est un rebelle. Vous entendez? Je le répète. Une femme qui n'est pas soumise à son mari est rebelle. Un mari qui n'aime pas sa femme est un rebelle. Et c'est un cœur obéissant qui fait la joie du Seigneur. Louez-le, vous qui craignez Dieu. Et l'Église fera des progrès, croyez-moi. Vous savez, jamais j'avais fait vraiment le rapprochement. Il a fallu que hier, je comprenne, avec ce texte de l'Apocalypse, l'épouse s'est préparée. Vous l'avez lu dans l'Apocalypse 19, Jésus prendra une église qui s'est préparée. Vous l'avez lu, on l'a lu deux fois. Son épouse s'est préparée. Non pas en faisant des œuvres. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Vous le savez? Mais quand vous êtes sauvé, je voudrais insister vraiment. Quand vous êtes sauvé, Dieu a préparé les œuvres afin que nous les pratiquions dans la sainteté et la justice. Les œuvres ne sauvent pas. C'est le problème de bien des religions, c'est le problème de la dernière église dans l'Apocalypse qui s'est fait avoir par les œuvres, et je fais ci, et je fais ça, et je suis riche, etc. Et les œuvres ne peuvent pas remplacer la sanctification et la purification. Par contre, un chrétien qui est sauvé ne peut pas ne pas faire d'œuvres. Et si vous ne faites rien dans l'église, mais venez me trouver, je ne vais pas vous accabler, je vais vous aider. Si vous ne faites rien pour Dieu, vous êtes en danger, c'est incontournable. Alors ressaisissez-vous, je vous le dis, je ne vous accable pas, je ne vous juge pas, je veux vous aider. Je suis votre pasteur, entre guillemets, je suis payé pour ça, ce n'est pas une question de salaire. Mais vous le comprenez bien, mon temps, je dois l'utiliser pour vous aider à faire en sorte que vous soyez prêts. Vous vous rendez compte, si vous n'êtes pas prêts, quand le Seigneur va revenir, ça me concerne aussi, même si c'est chacun qui doit se sanctifier. Les pasteurs qui verront 75% de leur église rester sur le carreau, vous avouerez que c'est un échec, oui ou non? C'est un échec. Alors je veux pas dramatiser, mais quand même. Et vous devez bien comprendre les choses. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais si vous ne faites pas d'œuvres, moi je vous dis que vous êtes dans l'embarras avec le Seigneur. Quand vous êtes converti, vous choisissez Dieu, vous choisissez de le suivre et vous faites les œuvres auxquelles Dieu vous appelle. Vous devez les faire et c'est une grâce. C'est une grâce de faire l'œuvre de Dieu. Si c'est un fardeau, c'est pour ça peut-être que vous ne faites plus rien. Parce que vous considérez le fait de servir Dieu comme un fardeau. Vous avez vu, au verset 8, il lui a été donné de se revêtir de fin lin. C'est la justice des saints. Vous voyez, la justice, la justification, etc., la sanctification. C'est Dieu qui nous le donne. Vous avez vu, il lui a été donné de se revêtir. Qui c'est dans le couple qui met la robe de mariée? Quoi qu'aujourd'hui? Ouais, plus c'est rien. Normalement, c'est la mariée. Vous êtes d'accord? C'est elle qui se revêt. C'est la mariée. Camille, vous le savez. Je vois que vous alliez en parler tout à l'heure. Attention. C'est la mariée. Il lui a été donné de se revêtir. Vous avez déjà vu une mariée qui met la robe? On n'a pas intérêt à toucher. Et surtout pas de tâche. Une mariée, elle veut que la robe soit belle. C'est pas vrai? Il y a des mariés, il y en a qui m'ont eu montré, « Monsieur, revenez voir, ça fait 30 ans, ma robe de mariée, venez voir, elle est toute propre. » Vous voyez, ce plaisir. Bon, mais ça c'est bien, le pressing. Mais écoutez-moi, il lui a été donné de se revêtir. Et pourquoi elle le fait la mariée, au fait? Pourquoi, mes sœurs, quand vous vous êtes mariées, pourquoi vouliez-vous avoir une belle robe? Tiens donc, pour plaire à votre mari? Pour plaire aux autres? Pourquoi? Allez, répondez. Pourquoi? C'est un jour important. Est-ce que c'est un jour important, le jour où on va se retrouver devant Dieu? Est-ce que vous savez qu'il vous a été donné, c'est un don, de vous revêtir de cette robe? Parce que notre divin fiancé va devenir le mari de l'Église. Et Jésus nous a présenté sa robe de sainteté pour l'Église, sa robe de justice. Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, vous le savez, et peu d'élus. Les élus, ce sont ceux qui ont dit oui et qui obéissent. Voilà. Dans la Bible, on parle des chrétiens, pentecôtistes, tout ce que vous voudrez. Les élus, ce sont ceux qui ont dit oui et qui continuent à obéir à Dieu jusqu'à la fin. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard qu'il y ait des chrétiens qui soient fidèles, sérieux, consacrés, et d'autres qui ne le soient pas. Non, c'est un choix que les chrétiens font. Et pour nous aider, peut-être que pour nous aider à concrétiser ce que je viens de partager avec vous, c'est peut-être de lire les lettres aux églises, les sept églises de l'Apocalypse. Écoutez, peut-être cette semaine, prenez les sept lettres aux églises, méditez-les, regardez comment Dieu parle à chacune de ces églises, à la première église qui faisait beaucoup d'œuvres, qui est une église qui était bien, hein. Mais Jésus dit quand même, ah, ce que j'ai contre toi. C'était une bonne église. L'église d'Éphèse, c'est une église où les pasteurs auraient aimé y être, ça c'est clair. Mais pourtant, Jésus dit, ce que j'ai contre toi. Tiens, le Seigneur pourrait-il me dire ce matin, Gérard, Robert, Jean, Olivier, etc., ce que j'ai contre toi, est-ce que vous accepteriez que le Seigneur vous dise, j'ai quelque chose contre toi, ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre? Vous êtes prêt à l'entendre? Ce que j'ai contre toi, ah, ce que j'ai contre toi, ben c'est que il te manque aussi. Il te faudrait faire cela, justement, par rapport à ton épouse, par rapport à ton épouse. Ce que j'ai contre toi, il lui dit, c'est que tu as abandonné le premier amour. Eh bien, Seigneur, merci de me le montrer.
Je suis tombé dans la routine, dans le train-train. Je viens à l'église, mais voilà, je fais plein de choses, mais je le fais par obligation. Et moi aussi, je m'interroge. Je ne veux pas être pasteur par obligation. Je veux être pasteur avec joie pour servir le Seigneur. Regardez, à chaque église, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende. À chaque église, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Ce qui nous montre que c'est un combat. Il y a un combat. C'est un combat de tous les jours. C'est le combat de la foi. Mais vous savez qu'il y a la chair qui est là. Vous le savez qu'il y a la chair? Je ne parle pas de la peau et des os. Et des muscles. Vous le savez, le monde est là. Je trouve que le monde, il met la pression. Je sais pas si vous trouvez. Le diable est là. Il y est. Et tout ça, les séductions, les ruses, etc., les combats, mais quelle bénédiction à celui qui vaincra. Et je pourrai combattre avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, en terminant ma prédication, à cinq églises, Jésus demande de se repentir sur sept. Mais, voyez, je lisais ce verset, parce que quand on a chanté, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Je pensais à ce verset, je ne sais pas si je l'ai marqué. Oui. Apocalypse 2, c'est une église, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont laissé des prophétesses enseigner de fausses doctrines. Ça, c'est un autre sujet, par là, il faudrait voir. Mais juste quelque chose. Vous savez que Dieu est amour. Vous savez. Mais quand même, ce matin, je priais, je pensais à cette réunion, je le soucie quand même d'être droit devant vous, droit devant Dieu. Et ce verset m'a interpellé, parce que c'est par rapport à, voyez, à la débauche, à l'idolâtrie. Regardez le verset 20. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Et hier, mais Dieu me montrait que dans l'église, il y a des chrétiens. Bien sûr que vous ne mangez pas de la viande d'animaux dans des temples sacrifiés aux idoles, mais vous mangez les choses que le diable vous propose. Ce sont des idoles. Quand quelque chose vous empêche de faire votre culte personnel, c'est une idole. Et vous mangez ces choses. Et je veux vous aider quand Ézéchiel dit, mais ces gens-là, leurs idoles, mais ils les portent dans leur cœur. Me laisserais-je consulter? Et ce qui m'a travaillé, c'est qu'en pensant à l'amour de Dieu, il y a ce verset qui m'a interpellé. Regardez, verset 21. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit. » C'est Jésus qui parle. Hein, « Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Mes frères et sœurs, je ne veux pas terminer avec une note triste. Mais vous avouerez quand même. Alors on ne peut pas parler forcément de mort physique, mais on comprend de toute façon qu'il y a une mort spirituelle. Et voyez, quand il y a des idoles dans une église, quand mes frères, vous qui êtes baptisés, si vous êtes nouveau, vous découvrez l'évangile, appliquez-vous à découvrir la grâce de Jésus-Christ. Mais si vous êtes baptisés, vous entendez? Si vous êtes baptisés et que vous laissiez des idoles dans votre cœur, il y a quand même des grandes conséquences. Vous savez, Dieu est amour. On n'arrête pas de le dire et on le dira toujours. Mais quand même, c'est Jésus qui dit aussi, je frapperai de mort ses enfants. C'est lui qui parle. Et ça doit quand même nous faire réfléchir, oui ou non? Et c'est pour ça qu'il faut quand même dire, mais attends, mais est-ce qu'il y a des idoles dans ma vie? Et voilà. Est-ce qu'il y a des idoles dans ma vie? Qui est en premier dans ma vie? Oui, je sais que Dieu nous aime et que Dieu pardonne tout, tout péché et tout blasphème sera pardonné à part le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais mes frères et sœurs, l'Apocalypse c'est sérieux. Dieu parle aux églises, Dieu aime l'église. Et voyez, je parlais succinctement de l'idolâtrie. Mais quand même, quand on voit ce qui se passera pour les gens qui ont des idoles, ça va mal finir. Pour eux et leurs enfants. Moi j'ai envie que tous nos enfants soient sauvés. Vous voulez que tous nos jeunes servent Dieu? Et à ce sujet, je donne rendez-vous vraiment à tous les jeunes samedi soir. Je vais m'occuper de la jeunesse. Je l'aurais dit dans les annonces, mais je vous le redis. Les jeunes, je voudrais vous amener, par la grâce de Dieu naturellement, à être tous remplis d'obéissance et de Saint-Esprit. Vous entendez les jeunes? Alors ceux qui sont mariés, écoutons, vous qui allez vous marier, réfléchissez. Mais quand même, on ne peut pas mettre de côté des paroles aussi sévères du Seigneur Jésus-Christ. Ça, Dieu ne va pas le bénir non plus. Si je ne prêche que l'amour, ça, Dieu ne va pas bénir.
il faut que je prêche sa sévérité aussi. Alors mes frères, on va terminer en priant. Je vais demander à Monsieur Olé de prier pour l'Église, pour tous les couples de l'Église. Mes frères, mes sœurs, les jeunes, vous qui allez vous marier, vous qui voulez vous marier, et soyez sérieux, ne soyez pas rebelles. Travaillons ensemble. Monsieur Olé, si vous voulez bien. Je voudrais que, dans le courant de l'année, je l'ai à cœur, avant cette prédication, de faire un séminaire pour les couples et pour la famille. Nous le ferons dans le cadre de l'Église. J'y tiens, mais d'une manière vraiment spirituelle et pratique et utile et sociale. Mais mes frères et sœurs, l'Église sera prête quand les familles seront prêtes.